Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, j'ai énuméré les dons et les transferts hors du laboratoire dont je voudrais vous parler et j'ai commencé l'analyse de certains d'entre eux. Dans la première partie de cette conférence, je poursuivrai cette discussion. Je passerai ensuite au rôle du désintéressement dans les missions kamikazes au Moyen-Orient et ailleurs. Je vous rappelle d'abord la liste des dons et transferts que je vous ai présentés et dont j'ai parlé des versements des migrants, du don de sang, des transferts entre générations et les systèmes de redistribution économique. Aujourd'hui, je parlerai de la philanthropie envers les causes et les personnes et j'ai aussi ajouté une catégorie à la liste que j'ai présenté la semaine dernière, à savoir le sauvetage et l'hébergement des Juifs dans l'Europe nazie. L'analyse de ce comportement, souvent héroïque, servira de tremplin pour une discussion sur la source de l'altruisme et du désintéressement. Faut-il la chercher dans la personnalité de l'individu ou dans le contexte de son action? Autrement dit, la personnalité altruiste qui fait le bien partout où elle se trouve, existe-t-elle? Celui qui héberge des Juifs sera-t-il forcément aussi généreux envers ses parents, ses enfants et les pauvres? Comme vous devez vous en douter, d'après le ton rhétorique de ces questions, ma réponse sera négative. Mais reprenons d'abord le sujet de la philanthropie sur lequel j'ai terminé la conférence de la semaine dernière. Je parlerai surtout des aspects qui sont communs à la philanthropie envers les causes et la philanthropie envers les personnes, mais j'indiquerai de temps en temps quelques questions qui sont plus spécifiques à l'une ou à l'autre. La littérature sur les dons altruistes. Est-ce qu'on pourrait baisser un peu la lumière? Je sais pas. Merci. La littérature sur les dons altruistes fait grand cas du fait que le soulagement de la détresse est un bien public. L'action d'un bienfaiteur ne profite pas seulement à la personne ou à la cause qui fait l'objet de sa bienveillance, mais également aux autres bienfaiteurs potentiels. Puisque cette première action satisfait en partie le désir de ces derniers d'améliorer la situation de la personne qui fait l'objet de bienfaisance, ils donneront moins. Cela peut même donner lieu au phénomène paradoxal que deux bienfaiteurs donnent moins qu'un seul. Pour expliquer ces effets, un minimum de formalisation s'impose. Supposons deux altruistes jumeaux identiques, A et B, et une personne C qui est l'objet de leur bienveillance. A et B ont chacun une dotation initiale de M unités de compte d'argent. Ils ont le choix entre donner X ou Y à C, où 2Y est inférieur à X. L'utilité de chaque agent altruiste égale l'utilité qu'il tire de son revenu personnel plus une fraction K, entre 0 et 1, de l'utilité que C, que nous supposons non altruiste, tire de son revenu à lui. Et je suppose, à titre d'illustration, que l'utilité que tire chacun des agents A, B et C d'un revenu donné est la racine carrée de ce revenu. Cette fonction d'utilité a la propriété désirable dans ce contexte que l'utilité marginale du revenu est décroissante. Et on peut alors se poser deux questions. Quel est l'effet du don de A sur le don de B? Et bien sûr, inversement. Ensuite, peut-il y avoir des valeurs de K, M, X, X et Y telles que un seul altruiste donnerait X, tandis que chacun de deux altruistes donnerait Y? En cas de réponse positive à cette dernière question, le fait d'avoir deux altruistes au lieu d'un seul va empirer la situation de la personne dont on voudrait soulager la détresse. La première condition, un seul altruiste donnerait X, est satisfaite si et seulement si cette inégalité obtient, alors là, vous avez le revenu de A quand il donne X, et l'utilité, donc la racine carrée. Là, vous avez le revenu de C quand il donne X, et l'utilité pour A de ce revenu est encore la racine carrée de X multipliée par le facteur proportionnel d'altruisme K. Et pour qu'il donne X, il faut que cette expression soit plus grande que l'expression qu'on obtient si on met Y plutôt que X. Et l'intuition de base est ici tout à fait simple. En raison de l'utilité marginale décroissante du revenu, la somme transférée va produire plus de biens chez le receveur que chez le donneur, au moins si X et Y sont petits par rapport à M. Et cet effet est pourtant contrebalancé par le fait que K est inférieur à 1. L'inégalité sera donc satisfaite si le premier effet, à savoir l'efficacité du don, domine le second, à savoir l'égoïsme. Pour établir les conditions dans lesquelles chacun des deux altruistes donnerait Y, on va déterminer l'utilité de A dans les quatre cas de figure suivantes. Puisqu'il s'agit d'un jeu où les deux font des dons simultanés, soit X, soit Y, et on peut donc indiquer dans chacune des cases l'utilité que tire A de ces diverses constellations de dons. Puisque A et B sont supposés être des jumeaux identiques, le raisonnement que je vais conduire se reproduit identiquement pour B. Alors, prenons une case. Alors, là, vous avez l'hypothèse où les deux donnent X. Donc, l'utilité de A, comme tout à l'heure, est d'abord la première composante de son utilité est de m moins x à la racine carrée. Maintenant, la dotation de c est de 2x, puisque a et b donnent tous les deux. Et donc, l'utilité que tire a du revenu de x de c est encore une fois k fois la racine carrée de 2x. Et ainsi de suite pour tous les autres cas. Et il s'agit donc de déterminer les conditions dans lesquelles A, et donc B, va préférer Y plutôt que X, c'est-à-dire dans lesquelles cette expression est supérieure à celle-là et cette expression supérieure à celle-là. En fait, ce que je viens de dire constitue des conditions suffisantes pour le choix de Y, ce ne sont pas forcément des conditions nécessaires, mais je me limite aux conditions suffisantes. Donc, quand est-ce que donner peu domine donner beaucoup? Et quand est-ce que donner peu est la stratégie dominante par rapport à la générosité? C'est la question qui se pose. Et donc, par exemple, ici, bon, alors, comparons ces deux cas. Quand est-ce que l'utilité de A, s'il donne peu, est supérieure à son utilité s'il donne beaucoup, étant donné que B donne beaucoup? Alors, c'est donc cette expression-là. Ça, c'est l'utilité de A quand il donne peu et que B donne beaucoup. Ça, c'est l'utilité de A quand il donne beaucoup et quand B également donne beaucoup. Et donc, pour que dans cette hypothèse, donner peu soit préférable, il faut que cette inégalité obtienne. Et là, c'est simplement la même expression avec l'hypothèse que B donne peu, que B donne Y plutôt que X. Donc, si ces deux conditions obtiennent, donner peu domine, est une stratégie dominante par rapport à la générosité. Cette condition-là, c'est la même condition que j'ai écrite tout à l'heure, qui indique simplement que si A est le seul donateur, il donnera X plutôt que Y. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut trouver des valeurs pour M, Y, X et K telles que ces trois inégalités sont satisfaites? Et la réponse est positive. Voilà les valeurs pour lesquelles ces inégalités obtiennent. Et quand elles obtiennent, on constate également que cette inégalité se vérifie. Alors, je vais vous ramener un peu. Alors, cette inégalité, en fait, consiste dans la comparaison de ce cas où les deux donnent beaucoup avec ce cas où les deux donnent peu. Et l'inégalité que j'ai indiquée, que voilà, indique que pour A, la situation où les deux donnent beaucoup est préférable à la situation où les deux donnent peu. Et pourtant, il est dans l'intérêt de chacun d'eux de donner peu, quoi que fasse l'autre. Donc, c'est la structure classique du dilemme du prisonnier. Donner peu domine donner beaucoup, même si tous les deux préfèrent la situation où tous les deux donnent beaucoup à la situation où tous les deux donnent peu. Et bien sûr, puisque l'objet de la bienveillance y perd aussi lorsque les deux donnent peu, on voit que tout le monde est perdant par rapport à la situation qui obtiendrait si les deux donnaient beaucoup. Cet exemple numérique comporte en effet deux anomalies. Le premier, c'est ce que je viens de dire, que l'issue est pire pour chacun des deux donateurs que s'ils avaient tous les deux donné plus. Appelons cela le dilemme de l'altruiste, puisque, comme je viens de le dire, c'est un cas particulier du dilemme du prisonnier. Et observons que si les deux altruistes avaient l'option de voter pour une loi qui fixe la même contribution pour tous, autrement dit un impôt plutôt qu'un don, ils voteront pour 6, ils voteraient pour 6 et rejetteraient 2. De même, si les deux personnes sont sujets à la pensée magique, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, chacun fera une contribution de 6 dans l'anticipation que son jumeau altruiste en fera autant. Autrement dit, quand l'agent pense qu'il n'a le choix qu'entre les deux cases sur la diagonale, il choisit X. Autrement dit, dans la comparaison verticale, il préfère cette case à celle-ci et cette case à celle-là. Je m'excuse des répétitions des mêmes thèmes, mais c'est peut-être utile. La seconde anomalie, c'est que la situation du receveur est pire avec deux donateurs qu'avec un seul. Et on pourrait appeler cela le paradoxe de l'altruisme. Il est moins robuste que le dilemme de l'altruisme, puisqu'il repose sur l'hypothèse un peu artificielle que les donateurs sont forcés de choisir entre 2 et 6. Et on peut montrer que si les donateurs peuvent choisir librement leur niveau de contribution, le paradoxe de l'altruisme ne se pose pas. Mais le dilemme de l'altruisme reste pourtant intact dans cette hypothèse. Donc c'est surtout de ce dilemme que je parlerai par la suite. Le dilemme de l'altruisme se pose pour n'importe quel nombre de bienfaiteurs. La même conclusion s'impose. Chaque bienfaiteur choisit sa contribution au bien public en fonction des contributions de tous les autres. Dans le langage de la théorie des jeux, sa contribution est la meilleure réponse à la leur. Lorsque chaque contribution constitue la meilleure réponse aux contributions de toutes les autres, on obtient un équilibre dit équilibre de Nash, d'après John Nash. On peut donc appeler cette approche à la philanthropie altruisme de Nash, puisqu'il repose sur le postulat de contribution altruiste qui se détermine réciproquement dans un équilibre de Nash. Pour les raisons que je viens d'exposer, les contributions que prédit l'altruisme de Nash seront sévèrement sous-optimales du point de vue normatif. En lui-même, ce fait ne constitue évidemment pas une objection à l'analyse positive. Or, l'analyse positive implique aussi que dans une population un peu large, avec quelques millions d'individus, les contributions individuelles seront non seulement sous-optimales, mais quasi inexistantes, ce qui ne correspond pas à ce qu'on peut observer. Je vais simplement vous indiquer quelques chiffres globaux pour vous indiquer l'importance des donations philanthropiques. Pour la détermination empirique des contributions philanthropiques, il faut tenir compte non seulement des versements monétaires, mais aussi du volontariat qui constitue souvent la partie la plus importante de la philanthropie. On constate alors que dans les sociétés occidentales contemporaines, le pourcentage du produit national brut que constituent ces contributions varie de 1% en Italie à presque 5% aux Pays-Bas. À ma connaissance, il n'existe pas de modèle qui permette de prédire le montant exact des contributions dans l'hypothèse de l'altruisme de Nash. Mais il semble pourtant qu'il y ait un consensus parmi les économistes que ce montant, quel qu'il soit, est nettement inférieur aux contributions constatées empiriquement. L'analyse positive sur la base de l'altruisme de Nash implique aussi d'autres prédictions qui ne sont pas vérifiées sur le terrain. Mais plutôt que d'entrer dans le détail, souvent très technique, je préfère me pencher sur la réponse de la profession économique et aussi les sciences sociales de manière plus générale, à cette aporie empirique. Puisque l'altruisme de Nash repose sur deux hypothèses, l'hypothèse de motivation altruiste et l'hypothèse que les contributions se déterminent réciproquement dans un équilibre de Nash, il faut abandonner l'un ou l'autre de ces postulats, ou même les deux. Et je parlerai surtout du rejet de l'hypothèse de l'altruisme. Et parmi les alternatives à cette hypothèse, j'examinerai les suivantes. Premièrement, l'intérêt matériel. Deuxièmement, le désintéressement désintéressé, que j'ai mentionné brièvement la semaine dernière. Troisièmement, un certain nombre de motivations sociales, comme le désir des louanges et de prestige, la crainte de l'ostracisme, le désir d'être envié et la honte de refuser. Quatrièmement, les normes quasi-morales qui vous disent de donner si et seulement si les autres donnent. Et enfin, et j'en parlerai assez longuement, ce qu'on peut appeler le chaud à cœur, altruisme impur, en anglais, warm glow, et que moi, je vais appeler l'effet Valmont, si vous vous rappelez la citation, que d'ailleurs je vais reproduire tout à l'heure. Donc, l'intérêt. Dans certaines situations, donner aux pauvres est dans l'intérêt immédiat des riches. Afin de prévenir un soulèvement populaire, les riches peuvent faire des transferts aux pauvres, soit par bienfaisance individuelle, soit par les prestations sociales financées par un impôt perçu sur leur classe. Le dernier mécanisme est évidemment le plus efficace, puisque dans un jeu de biens publics, comme celui dont il s'agit ici, le profit que tire un individu donné de sa contribution est toujours inférieur à celle-ci. Comme le note Paul Venn à propos de l'évergétisme dans l'Antiquité classique, il était de l'intérêt de chaque notable de ne pas s'immoler à l'idéal de l'évergétisme et de laisser les autres rayonner à sa place. Si, comme l'explique Venn, les notables ont fini néanmoins par donner à la cité, C'est en partie par les pressions sociales qu'exercent les riches les uns sur les autres, et en partie par snobisme. Je reviendrai sur ces motivations sociales. Ici, je constate seulement que le système est évidemment fragile. En revanche, si les riches ont l'option de voter pour un transfert qui sera obligatoire pour tous, il est dans l'intérêt direct de chacun de le faire, comme je l'ai démontré tout à l'heure. J'ai parlé la semaine dernière du désintéressement intéressé, à propos de la tendance à donner plus à celui qu'on aime le plus. Dans les interactions entre un petit nombre d'agents, l'amour peut en effet obvier au dilemme de l'altruisme. Si chaque individu ne se soucie que de ses proches et ne donne qu'à eux, la bienfaisance ne sera pas un bien public. Et je vous rappelle ici une phrase que j'ai citée d'après Serge Kolb, « Parmi les riches, on a ses pauvres ». Lors des campagnes philanthropiques dans les pays occidentaux, on demande souvent aux contributeurs de parrainer un individu précis et nommé, souvent avec une photo, dans un pays du tiers-monde, peut-être dans le dessein d'éviter les retombées de la contribution sur d'autres contributeurs. Pour la même raison, quand les universités américaines cherchent à s'attirer des donations, elles s'adressent surtout à leurs anciens étudiants. Les motivations sociales jouent surtout dans la philanthropie envers les causes. En ce qui concerne le désir des louanges, c'est le public, au sens de la collectivité des citoyens, qui fournit l'aiguillon le plus important. Qu'on se rappelle, par exemple, l'abnégation de Necker, une forme de volontariat avant la lettre, motivée, selon sa fille, par l'amour de la considération. La communauté plus restreinte des donneurs oppose des motivations différentes. À leurs yeux, ceux qui donnent trop suscitent l'envie et ceux qui donnent trop peu provoquent le mépris. Chez certains, le désir d'être envié constitue en effet un mobile tout aussi puissant que l'est, chez la plupart d'entre nous, le désir d'être admiré et l'horreur d'être méprisé. Ces trois motivations n'auront évidemment de prise que lorsque les contributions sont connues par d'autres donateurs ou donateurs potentiels. Et une étude américaine trouve en effet que les donations des anciens étudiants à leur école de droit augmentent d'un tiers lorsque celles-ci sont reportées publiquement. En revanche, la honte de refuser naît de l'interaction entre le donateur et le receveur, ou le représentant de ce dernier. Selon un auteur qui a apporté des contributions très importantes à ce sujet, James Andreoni, c'est une loi des reins de la collecte de fonds que les gens ne donnent pas si on ne leur demande pas. Comme j'aurai l'occasion de noter plus loin, il semble que ce soit vrai également pour la décision d'assister les Juifs persécutés. Et dans les deux cas, la philanthropie et le sauvetage des Juifs, cette observation peut s'interpréter selon deux hypothèses distinctes. Soit la demande de contribution ou d'assistance peut fournir une information précieuse aux donateurs potentiels qui autrement auraient pu ignorer l'existence de l'objet de bienfaisance. Soit l'interaction face à face crée une situation où refuser sera senti comme honteux et pénible. Selon certains auteurs, notamment de l'école de Chicago, l'anticipation de ce fait peut induire une personne à traverser le boulevard lorsqu'il voit à distance un mendiant STF sur le trottoir de son côté. Or, quand il est impossible de s'en soustraire, la confrontation personnelle est souvent très efficace. Pour les contributions philanthropiques, l'hypothèse informationnelle semble peu plausible, puisque dans nos sociétés modernes, il est difficile d'ignorer l'existence d'un vaste ensemble de bonnes œuvres. En ce qui concerne le sauvetage des Juifs, on verra que la question est plus compliquée. Pour déclencher les motivations sociales, il importe que le donateur potentiel soit observé par d'autres agents, que ce soit les citoyens en général, les autres donneurs ou les receveurs. Les normes quasi-morales, par contre, présupposent seulement que le contributeur potentiel est en mesure d'observer les actions d'autrui. Si je lis dans le journal qu'un grand nombre de mes concitoyens ont contribué au secours des victimes d'un tsunami, aucun de ceux-là n'est en position d'observer si j'en fais autant. Pourtant, étant donné leur contribution, la norme quasi-morale de coopération conditionnelle me dicte de suivre leur exemple. Inversement, si je constate que leur contribution est faible, cela me fournit une excuse pour ne rien donner. Si nous adoptons un point de vue moral et non seulement quasi-moral, il s'agit là d'un effet pervers. Si les autres donnent peu, le besoin d'assistance sera plus grand et, du point de vue moral, mon obligation de donner également plus grande. Mais d'après les normes quasi-morales, c'est l'inverse qui est le cas. Lorsque les autres donnent peu, l'adoption de la norme quasi-morale peut avoir évidemment une source intéressée. Il me permet en effet à la fois de préserver mon intérêt matériel, mon argent, et de garder de moi-même l'image d'une personne qui n'est pas uniquement mue par son intérêt. Inversement, si je sais que les autres donnent beaucoup, je peux justifier mon abstention par un raisonnement conséquentialiste en me disant qu'une contribution de ma part aurait peu d'effet à cause de l'utilité marginale décroissante des contributions. Comme nous l'avons vu dans les négociations salariales et dans certaines variantes du jeu de l'ultimatum, nous tendons à exploiter la moindre ambiguïté dans la situation d'une manière qui nous est avantageuse. Moins la situation est ambiguë, plus grande est la force du désintéressement. Pour expliquer la divergence entre le volume de contribution que prédit l'altruisme de Nash et le volume effectivement observé, la profession économique a exploré toutes les approches que je viens de citer. Mais la réponse principale fut pourtant de conceptualiser la contribution individuelle comme un bien privé pour l'individu. On parle à ce propos, comme je l'ai noté tout à l'heure, du chaud à cœur, d'altruisme impur, de warm glow, mais je préfère la phrase « effet Valmont ». Et je me permets ici de vous citer, je pense pour la troisième fois, le passage pertinent des liaisons dangereuses. J'étais étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien et je serais tenté de croire que ceux que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît de nous dire. Dans ce mécanisme, ce qui joue n'est pas l'amour pour autrui, comme dans le désintéressement intéressé, mais tout bonnement l'amour propre. On donne pour ainsi dire à soi-même, par l'intermédiaire d'autrui, qui ne sert que de véhicule ou d'occasion pour l'amour propre. C'est comme si vous payiez quelqu'un pour vous offrir des louanges, non pas à destination d'un tiers, mais pour votre consommation propre. Bien qu'absurde, cette dernière pratique se rencontre parfois dans la réalité. Il requiert évidemment une certaine capacité de se duper soi-même. De même, pour constituer une motivation ex ante du don, l'effet Valmont ne saurait en être le mobile conscient. Comme j'en ai déjà fait la remarque à plusieurs occasions, l'approbation par l'agent de sa propre générosité s'écroulerait s'il prenait conscience que le don offert à l'autre découlait de son désir de s'approuver lui-même. L'effet Valmont semble capable d'expliquer certaines observations curieuses, notamment le caractère non additif de l'évaluation des biens publics. Quand on demande à une personne combien elle serait prête à payer pour un bien public, comme un parc naturel, il est possible que sa réponse reflète non seulement l'utilité qu'elle tirerait du bien, mais également l'effet Valmont. Si tel est le cas, il s'ensuit que la somme des évaluations pour deux biens distincts sera plus importante que l'évaluation de ces deux biens pris ensemble comme un seul bloc. Et comme l'ont montré Daniel Kahneman et Jack Knetch, c'est en effet le cas. Les auteurs montrent que l'augmentation d'impôts que sont prêts à payer les habitants de Toronto afin de garder intactes les populations de poissons dans tous les lacs d'Ontario est tout juste supérieure à l'augmentation à laquelle il consenterait pour obtenir le même résultat dans une petite partie de la province seulement. Dans les deux cas, l'effet Valmont, en le supposant le même dans les deux cas, domine largement le souci écologique désintéressé. Ce résultat a une portée pratique considérable. Lorsqu'on va construire un barrage ou transformer une partie du territoire en parc national, il convient d'abord de se former une idée aussi précise que possible des coûts et des bénéfices écologiques. Comme ceci dérive de l'expérience subjective des individus, il semblerait approprié de les déterminer en demandant aux usagers de chiffrer le sacrifice qu'ils seraient prêts à faire. Cette méthode, dite d'évaluation contingente, est en effet très largement utilisée. Or, si les incohérences que je viens de citer constituent un problème intrinsèque à la méthode, la valeur s'en trouve fortement réduite. Citer un prix hypothétique qu'on serait prêt à payer ne coûte rien. Il n'est donc pas surprenant que l'effet Valmont joue ici à plein. Il importe évidemment de savoir si l'effet est également accentué pour les comportements qui exigent un sacrifice réel plutôt qu'hypothétique. Et la meilleure étude sur le sujet est un article très innovateur de Thomas Palfrey et John Prishbury. Dans les expériences reportées dans cet article, les sujets dans un groupe de quatre reçoivent un certain nombre de jetons qu'ils peuvent ensuite soit transférer au groupe, soit garder pour eux-mêmes. Dans l'un et l'autre cas, les jetons sont convertibles en argent selon deux taux d'échange distincts. Et en manipulant ces taux, on peut vérifier à la fois l'efficacité des contributions au bien public et leur coût d'opportunité au sujet. L'efficacité se mesure par un taux d'échange public, à savoir la somme d'argent V qui est transférée à chacun des membres du groupe, y compris le sujet, à la suite de la contribution d'un jeton par le sujet. Ce taux, qui varie de 3 à 15 entre les groupes, fait partie de l'information publique communiquée au sujet. Le coût brut de contribuer à un jeton se mesure par un taux d'échange privé. C'est l'équivalent en argent c'est l'équivalent en argent RI d'un jeton pour l'individu I. C'est-à-dire que l'individu peut échanger un jeton, s'il le garde pour lui-même, en une somme d'argent RI. Je m'excuse de ce petit accident. Ce taux, qui varie de 1 à 20 selon les sujets, appartient à l'information privée de chaque sujet. Et le coût d'opportunité est donc RI moins V. Si le sujet contribue un jeton, il reçoit, comme tous les autres membres de son groupe, une somme de V, tout en renonçant à une somme de RI à laquelle il aurait pu convertir le jeton, s'il avait gardé pour lui-même. Donc, on peut confronter les deux hypothèses de la motivation altruiste et de l'effet Valmont. Bien sûr, les auteurs n'utilisent pas la phrase « effet Valmont », ils utilisent la phrase « warm glow ». L'hypothèse de la motivation altruiste implique que les contributions augmentent avec le taux d'échange public. Plus on peut faire du bien, plus on en fait. L'hypothèse de l'effet Valmont implique, selon les auteurs, que les contributions varient inversement au coût d'opportunité de donner. Plus il en coûte de faire du bien, moins on en fait. Les auteurs trouvent que l'altruisme n'a qu'un faible impact sur les contributions observées, tandis que l'effet Valmont se révèle avoir un fort pouvoir explicatif. Reste à déterminer s'il s'agit bien de l'effet Valmont. Intuitivement, la corrélation négative entre les coûts d'opportunité et le montant de la contribution peut s'expliquer par le raisonnement suivant. On peut se dire que je voudrais bien contribuer au bien commun à condition que le coût d'opportunité ne soit pas trop élevé. Cette condition est remplie, 1, si la valeur pour moi des biens que je peux contribuer est plus élevée, comme lorsque les gens donnent leurs vêtements usés aux causes philanthropiques, ou 2, si l'efficacité de ma contribution est tellement élevée que j'en tire un grand profit personnel. Selon les auteurs, la phrase que j'ai soulignée exprimerait l'effet Valmont. L'agent tire une utilité ou un plaisir direct de l'acte contribué, indépendamment du bien que les autres en tirent. Si ce plaisir n'est pas contrebalancé par les coûts de la contribution, il va contribuer. Dans l'altruisme, l'arbitrage se fait entre le plaisir que je tire de mon revenu et celui que je tire du revenu des autres. Dans l'effet Valmont, il y a aussi un arbitrage, mais c'est entre le plaisir de donner aux autres et le revenu dont je me prive en donnant. Et le plaisir ou l'utilité des autres n'y entre pour rien. Ainsi formulé, et si on le prend à la lettre, l'effet Valmont prédit des contributions très faibles. Si l'acte de donner, indépendamment de l'importance de la contribution, est la source principale ou même unique. Si l'acte donné, indépendamment de l'importance de la contribution, est la source principale du plaisir de donner, tandis que le coût de donner augmente avec la contribution optimale serait tout juste supérieure à zéro, ou, comme le disent les économistes, égale à epsilon. Il existe en effet des personnes qui se comportent ainsi, et on en trouve par exemple dans les romans de Jane Austen. Mais de manière générale, il faut croire que l'effet Valmont ne se produit qu'à partir d'un certain seuil de contribution. Puisque, rappelez-vous, que l'effet Valmont parasite la croyance selon laquelle on donne afin de profiter aux autres plutôt qu'à soi-même. Et chez le commun des hommes, cette croyance exige une contribution au-dessus du minimum. Ainsi, la différence entre l'altruisme et l'effet Valmont se réduit à une différence entre deux mécanismes par lesquels le bien qu'on peut faire aux autres influe sur les décisions individuelles. Selon l'altruisme, ce bien fait partie du maximande. Selon l'effet Valmont, il constitue une contrainte ou un seuil. Et la capacité de l'effet Valmont à expliquer la philanthropie dépendrait donc de la distribution des seuils dans la population. Une faiblesse empirique des théories qui font appel à l'effet Valmont est leur incapacité à expliquer les réactions des populations aux catastrophes naturelles, comme un tsunami ou un tremblement de terre. En revanche, elles sont mieux placées pour expliquer la philanthropie plus routinière, les individus qui ont pris l'habitude de verser une partie de leurs revenus aux bonnes œuvres. Il faut croire que dans la réalité, on observe l'altruisme aussi bien que l'effet Valmont, dans des proportions sans doute variées, changeantes et difficiles à déterminer. Cela dit, les économistes semblent avoir un penchant naturel pour l'effet Valmont. Leur premier réflexe est toujours d'expliquer les comportements en supposant que les agents sont égoïstes, c'est-à-dire qu'ils sont mus par leur intérêt matériel. Cela est vrai au moins pour les économistes traditionnels. Quand ils sont forcés par les faits à abandonner l'hypothèse de l'égoïsme, ils préfèrent l'effet Valmont à l'hypothèse altruiste, puisque, selon le premier, les agents restent égocentriques, ce qui, du point de vue économique, peut sembler plus réaliste. Aux yeux des économistes, il est plus normal pour une personne d'acheter de la satisfaction morale, pour reprendre le titre de l'article de Kahneman et de Knetsch, que d'avoir un souci de s'intéresser pour les autres. Pourtant, il ne semble pas que les économistes aient compris qu'en insistant sur l'égocentricité des agents, ils sacrifient la rationalité des agents, puisque l'effet de Valmont dépend, et dépend de manière essentielle, de la duperie de soi-même. Comme je l'ai déjà dit, c'est comme payer quelqu'un pour vous offrir des louanges. Donc, il semble y avoir un choix théorique, ou bien le désintéressement, ou bien l'irrationalité. Et en fait, l'année suivante, mes cours porteront sur l'irrationalité. Donc, ce sera un complément du cours de l'année présente. En expliquant le don par le plaisir de donner, les économistes rencontrent les neuroscientifiques qui commencent à expliquer, comme on l'a vu il y a quelques semaines, l'acte de punir par le plaisir de punir. Dans les deux cas, on peut se demander si l'explication vaut également pour les situations triadiques. S'il est un fait que nous sommes davantage disposés à assister ceux qui ont assisté les autres, l'explication par l'effet Valmont ne semble pas très plausible. De même, il n'est pas démontré que notre tendance à punir ceux qui ont fait du mal à une tierce personne soit due au plaisir que nous tirons de la punition. Mais ce sont là des questions pour l'avenir. Comme je l'ai indiqué, l'effet Valmont a été conçu vers la fin des années 1980 pour expliquer que le dilemme de l'altruiste est compatible avec des contributions philanthropiques importantes. Si l'on peut avancer d'autres arguments pour réduire l'importance du dilemme, on n'aura peut-être pas besoin de faire appel à l'effet Valmont. De quels arguments pourrait-il s'agir? L'altruisme de Nash, comme d'ailleurs les normes quasi-morales, présuppose que les contributeurs potentiels sont parfaitement informés des contributions des autres. Dans une population de 100 millions d'adultes, chacun choisirait ainsi son niveau de contribution comme la meilleure réponse à la somme des contributions choisies par tous les autres. La théorie ne prétend pas expliquer le processus par lequel cette situation est atteinte. Tout ce qu'elle affirme, c'est qu'une fois que l'équilibre est réalisé, aucun individu n'a de raison de s'en écarter. Et à mon avis, cette hypothèse est d'un irréalisme, voire même d'un surréalisme extrême. À la suite d'une catastrophe, comme un tremblement de terre, il est sans doute possible d'avoir par les médias une idée relativement exacte des contributions déjà faites par les autres et de prendre sa propre décision en fonction de celle-ci. Il s'ensuit pourtant de mes remarques précédentes que le fait de savoir que les autres ont donné beaucoup encouragera certains donner également beaucoup, tandis qu'incitera les autres à donner peu. Et à mon avis, l'effet net est en général indéterminé. De plus, il est tout à fait irréaliste de supposer que les individus prennent leurs décisions en anticipant les contributions de ceux qui n'ont encore rien donné. Dans les situations plus quotidiennes, l'individu typique n'a qu'une idée vague des contributions d'autrui et sans doute n'y accorde pas une très grande importance. D'après ce que nous savons des opinions des citoyens sur les sujets un peu compliqués, celles-ci sont très changeantes. À une question donnée, on peut susciter des réactions verbales très variables par des manipulations verbales qui, logiquement, ne devraient en rien influencer la réponse. L'exception principale à cette hypothèse de l'ignorance concerne les œuvres de bienfaisance locales, organisées autour d'une église, d'un musée ou d'une université. Or, dans ce cas, l'information provient d'une institution et d'un contexte qui sont aussi capables de déclencher les motivations sociales dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'anonymat et l'information vont rarement ensemble. Pour conclure, ce serait trop dire que l'effet Valmont soit un artifice théorique qu'on a inventé pour résoudre un pseudo-problème. Il semble plus exact de dire qu'il a gagné une importance théorique disproportionnée due à la fois à la surestimation du problème empirique de l'altruisme de Nash et au dogmatisme naïf d'une grande partie de la profession économique. Le dernier exemple que je passerai en revue sous ce titre est celui du sauvetage et de l'hébergement des Juifs dans l'Europe nazie, que ce soit en Allemagne ou dans les pays occupés. Il existe maintenant une littérature considérable sur les motivations des individus qui prirent la décision, toujours pleine de risques et de dangers pour eux-mêmes, de venir à l'aide des persécutés. Ici, je ne citerai que deux articles pour les opposer l'un à l'autre. Le premier article s'inscrit dans une tradition qui cherche l'explication des sauveteurs dans leur personnalité altruiste. Pour les chercheurs inscrits dans cette tradition, la personnalité d'un individu s'exprime dans la cohérence et la stabilité de ses choix dans les situations diverses et dans le temps. Telle personne se soucie peu de l'avenir, trait de caractère qui s'exprime à la fois dans sa négligence de sa santé et dans le fait de ne rien mettre de côté pour son vieil âge. Tel autre est d'une nature altruiste, trait qui s'exprime à la fois dans ses contributions philanthropiques et dans ses donations de sang. D'innombrables proverbes témoignent, sinon de la réalité de ces traits, du moins de notre conviction qu'ils existent. Qui vole un œuf, vole un bœuf, qui dit un mensonge en disant, etc., etc. Cependant, la sagesse proverbiale des sagesses n'est pas sans faille. La croyance en une personnalité individuelle, cohérente et stable, bien que très répandue, est fausse. Et c'est ce que disait Montaigne très clairement dans ses essais, où il oppose, comme les psychologues modernes, deux approches au comportement. Comme il se voit du jeune Caton, qui en a tout touché une marche, a tout touché. C'est une harmonie de son très accordant qui ne se peut démentir. Donc, ça, c'est l'exception, Caton. À nous, au rebours, autant d'actions, autant faut-il le jugement particulier. Le plus sûr, à mon opinion, serait de le rapporter aux circonstances voisines, à la situation, sans entrer en plus longue recherche et sans en conclure autre conséquence. Par quoi un fait courageux ne doit pas conclure un homme vaillant? Celui qui le serait bien à point, il le serait toujours et à toutes occasions. Si c'était une habitude de vertu, donc la personnalité, et non une saillie, il rendrait un homme pareillement résolu à tous accidents, tel seul qu'en compagnie, tel qu'en clos, qu'en bataille, qu'à quoi qu'on dise, il n'y a pas d'autre vaillance sur le pavé et autre au camp. Aussi courageusement porterait-il une maladie en son lit qu'une blessure au camp, et ne craindrait non plus la mort en sa maison qu'en un assaut. Nous ne verrions pas un même homme donner dans la brèche d'une brave assurance et se tourmenter après comme une femme de la perte d'un procès ou d'un fils. Selon Montaigne, bien sûr, ce sont justement de telles incohérences que, à l'exception du Caton le jeune, nous observons. Les actes de courage, d'altruisme, prévoyance sont, comme il le note, à rapporter aux circonstances voisines plutôt qu'aux habitudes de vertu. Et cette proposition est maintenant largement acceptée par la profession psychologique, comme en témoignent, par exemple, les travaux suivants. Donc, revenons maintenant aux deux articles que j'ai indiqués tout à l'heure sur les sauveteurs des juifs et non-sauveteurs. Le premier article, cité par Monroe et ses co-auteurs, oppose sauveteurs et non-sauveteurs. Les premiers, les sauveteurs, sont dans leur phrase les personnes de John Donne, John Donne's people, phrase qui renvoie au texte célèbre de ce poète élisabétain. Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du contenant, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie, comme si les flots avaient emporté un promontoire, le monde noir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme est diminue parce que j'appartiens à un genre humain, Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour toi qu'il sonne. Ça, ce sont les sauveteurs, the John Donne's people. Les non-sauveteurs, en revanche, se perçoivent comme des individus isolés et sans défense, plutôt que comme des membres d'une humanité commune. Ils se disent, que pourrais-je faire moi, un individu seul, contre les nazis? Les sauveteurs, eux, se demandent, que pourrais-je faire d'autre? Impossible de ne pas venir en aide. À ma connaissance, il n'existe aucune donnée portant sur le comportement des sauveteurs dans d'autres situations qui appellent l'altruisme. Il faut penser que les résultats que je viens de citer s'appliquent à eux comme aux autres. Une personne prête à risquer son existence pour une famille juive qu'il ne connaît pas pourrait se montrer intraitable dans ses négociations avec un locataire de longue date qui a des difficultés à payer son loyer. Dans cette hypothèse, interrogeons-nous sur les raisons qui peuvent expliquer que certains sont devenus des juifs, des justes parmi les nations, expression adoptée en Israël pour ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver les juifs. Le second article que j'ai signalé de Vares et Yaish apporte une réponse d'une simplicité étonnante. J'ai sauvé puisqu'on me l'a demandé. Dans l'échantillon de sauveteurs qu'ils étudient, 237 sur 359 affirment qu'ils adhèrent car on le leur avait demandé. Autrement dit, moins d'un tiers initièrent l'action d'eux-mêmes. En plus, 4% seulement de ceux à qui la demande fut faite la refusèrent. Les auteurs proposent de ces faits l'explication suivante. D'une part, hors de la communauté juive, très peu de personnes connaissaient la situation des personnes en besoin d'assistance. Une initiative personnelle de la part d'un sauveteur potentiel risquait d'être non seulement infructueuse, mais également dangereuse si la personne à qui il s'adressait le dénonçait ensuite aux Allemands. Le taux de rejet très faible indique l'importance de médiateurs qui étaient capables d'identifier à la fois les personnes en danger et ceux qui répondraient positivement à une demande d'assistance. Bien que ces auteurs caractérisent leur approche de situationnelle plutôt que caractérielle, je me demande si tel est effectivement le cas. Leur analyse est en effet, je pense, compatible avec l'existence d'une personnalité altruiste qui manque seulement de l'information nécessaire pour agir. Quand une tierce personne en possession de cette information est capable de déceler son altruisme, lui demande d'aider, il accepte sans hésitation. Il en aurait fait de même, sur cette interprétation, en toute autre rencontre avec des nécessiteux connus. Mais on pourrait cependant imputer une autre stratégie aux médiateurs, non pas de chercher à découvrir les altruistes, mais de détecter ceux qui seraient incapables de refuser dans une situation de face à face. Nous avons vu tout à l'heure que même lorsqu'il y a une abondance d'informations concernant les objets de bienfaisance, le face-à-face est souvent nécessaire pour susciter une contribution. Dans le cas de sauvetage des Juifs, le face-à-face fournit à la fois l'information et la motivation nécessaires, mais selon ce raisonnement, la seconde fonction serait la plus déterminante. Ce raisonnement, bien que tout à fait spéculatif en ce qui concerne le sauvetage des Juifs, permet de faire une observation qu'il est moins. Les réactions des individus aux situations qu'ils confrontent ne se font ni de manière automatique, selon leur personnalité, ni tout à fait au hasard, car il existe des régularités ou des cohérences locales, de sorte que telle personne, placée devant telle situation précise, y répond d'une manière largement prévisible. Tel homme ne nettoie jamais la maison sans qu'on ne le lui demande, mais il prend souvent l'initiative pour occuper le temps de loisir de ses enfants. Tel fonctionnaire est rigide avec un subordonné, mais flexible avec ses supérieurs hiérarchiques, tandis que tel autre se comporte de manière exactement inverse. Et ni l'un ni l'autre n'ont de personnalité rigide ou flexible. Si l'on peut parler de leur personnalité, c'est dans le sens d'un faisceau de paires de situations-réponses. Même s'il y a peu de cohérence synchronique ou intersituationnelle, il peut y avoir un degré considérable de cohérence diachronique et intrasituationnelle. Et l'article suivant en fait une synthèse récente et excellente. Et je pense qu'il faut, dans les conférences qui suivent, constamment tenir présent à l'esprit ce fait que l'altruisme n'est pas un attribut de la personnalité altruiste, mais naît dans la rencontre de certaines dispositions contingentes ou conditionnelles et certaines situations. Bon, je change maintenant de registre pour commencer la discussion de ce qui a été annoncé sur le site web comme les missions kamikazes. En fait, je voudrais ne pas me limiter aux attaques suicidaires, mais adresser le suicide instrumental à fin politique, militaire ou religieuse dans une perspective plus générale. Et puisque je n'ai que quelques minutes qui me restent, je vais juste faire quelques remarques préliminaires, dont notamment d'abord une question de terminologie. J'utiliserai l'expression mission kamikaze dans son sens originel, qui désigne les pilotes japonais qui écrasèrent leurs avions sur les cuirassés américains vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je parlerai de mission suicide pour nommer les actions dans lesquelles la mort de l'attaquant est une condition nécessaire pour le succès de la mission. Je parlerai d'attaque sans issue pour indiquer la catégorie plus générale encore des attaques auxquelles l'attaquant n'a aucune chance de survivre, par exemple parce que l'attaque va provoquer une riposte mortelle instantanée. Et enfin, je parlerai de suicide à fin politique, lorsque c'est la mort du suicidaire qui est censé produire l'effet politique désiré. Que cette mort soit accompagnée ou non par d'autres morts qu'il aurait, dont il serait responsable. Et dans cette catégorie, on peut inclure également la menace de suicide comme dans les grèves de faim. Bien que l'on puisse observer des attaques kamikazes ou missions suicides à diverses époques et dans divers pays, les groupements de cas les plus importants sont les suivants. Je vais m'arrêter sur cette énumération. Donc, les kamikazes japonais, les milliers d'adolescents iraniens utilisés comme détonateurs humains dans le nettoyage des champs de mines dans la guerre contre l'Irak en 1880, le Liban dans les années 1880, les Tigres Tamouls au Sri Lanka, le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan en Turquie, la Palestine, les attaques organisées par Al-Qaïda, le Cachemire, la Tchétchénie et bien sûr ce qui se passe tous les jours à l'Irak. Et je conclue par vous indiquer brièvement les études les plus importantes sur le sujet qui, je pense, prises ensemble, donnent une très bonne introduction à un sujet très compliqué, puisque largement caché dans l'obscurité. On n'en sait pas vraiment grand-chose. Bon, je vous remercie de votre attention.